Je pense que j'aime foncièrement les gens, voir un sourire apparaître sur leur visage, ça fait du bien aussi, enfin et ça me fait du bien à moi aussi en fait. On s'en dit bien aux autres, je me fais beaucoup de bien à moi aussi.
Voix du Sud Touraine avec Nathalie Desperges-Boucatem. Aquarelliste, auteure, éditrice, elle nous ouvre les portes de son havre de paix à Verneuil-sur-Indre. Elle puise son inspiration dans l'humain et les paysages. Maman de 4 enfants, Nathalie Desperges-Boucatem est aussi secrétaire de mairie. Et c'est avec générosité qu'elle nous invite à découvrir son univers.
Alors, je suis née, j'ai un petit pied dans le Berry, ce qu'on appelait autrefois la petite Touraine. Je suis née à Châtillon-sur-Indre et j'ai grandi à Saint-Jean-Saint-Germain, donc sur les bords de l'Indre. Et je passais tout mon temps pratiquement dehors, à pêcher, à faire des cabanes. Enfin, voilà, quand j'étais petite, c'était mes passe-temps favoris, à bricoler, dessiner. Enfin voilà, j'étais plutôt manuelle, on va dire. Et donc oui, je suis originaire d'ici. Je suis partie un petit peu, quelques années dans le sud de la France. Et puis je suis revenue ici maintenant depuis 1998. Voilà, et on s'est installé ici, donc à Verneuil-sur-Indre, au Martineau, donc auprès de ma maman qui vivait juste à côté. Donc mes enfants ont grandi ici, on a passé toutes ces années ici, dans la campagne.
Est-ce que quand vous étiez enfant, vous venez de me dire que vous dessiniez, que vous étiez plutôt manuel, mais est-ce que vous saviez que vous aviez une vocation pour la création artistique ?
Non, quand on est enfant, on a plein de rêves. J'avais plein de rêves. Je voulais faire plein de choses. Archéologue, juge pour enfants. Voilà. Par contre, le dessin, non, ça m'est venu un petit peu plus tard. Alors, je dessinais, oui, beaucoup, même, y compris même sur la porte de la chambre où je dormais quand j'étais petite. Pas forcément beaucoup plus à mes parents quand je l'ai fait. Mais oui, je dessinais énormément. J'essayais un peu tout, sur du verre, sur du bois. Comme mon père était charpentier, donc je faisais des constructions pour la fête des mères, par exemple, de tables, et que je peignais ensuite. Après, une vocation, non. J'ai toujours aimé ça, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé aussi bricoler, restaurer des meubles, construire des choses, fabriquer. Mais la vocation, elle m'est venue vraiment plus tard, je dirais. Quand j'étais après ado, oui, je dessinais toujours. Donc, j'ai fait des études d'art appliqué. Et donc, c'était quand même un choix aussi de parcours qui a été après aussi un peu chaotique. Hein. Je me suis mise à mon compte dans le sud de la France, en profession libérale pour commencer, donc avec deux personnes formidables avec qui j'ai appris le métier de graphiste et d'illustratrice. Et puis après, j'ai navigué, je suis revenue en Touraine et j'ai travaillé dans une imprimerie. Je suis restée un an. Puis après, j'ai fait d'autres métiers. J'étais secrétaire technique et commerciale, donc rien à voir avec le dessin. Et puis après, j'étais maman à plein temps pendant pas mal d'années. Et le dessin est revenu à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. En fait, j'avais un besoin de faire quelque chose. Donc, c'est revenu timidement, doucement. Tout le monde me dit, mais vas-y, quand même, t'as un talent, utilise-le, fais-le. Donc, j'ai ressorti les papiers, les crayons. Et puis, c'est revenu petit à petit. J'ai vraiment recommencé, en fait, en faisant des portraits. C'est revenu surtout grâce aux portraits, le démarrage de la reprise du dessin. Voilà. Et l'aquarelle est venue, s'est greffée après. C'était au début, c'était au crayon. Et puis, petit à petit, l'aquarelle est revenue presque naturellement. Enfin, ça, j'ai pas réfléchi, en fait, ça s'est fait tout seul.
Où avez-vous fait vos études ? Et avec l'envie et l'idée de faire quoi ? Et ensuite, une fois que vous êtes partie dans le sud, c'est-à-dire que vous avez, après vos études, quitté ici, comment ça s'est passé ?
Alors, mes études, j'ai fait une première partie à Brassard à Tours, donc la première année, et puis j'ai pas été prise pour continuer en fait en deuxième année. Donc j'ai testé un peu les beaux-arts et là j'ai pas du tout trouvé ma place. En plus c'était pas du tout dans le dessin, enfin c'était de l'archi intérieur et ça me plaisait pas du tout en fait. Donc j'ai tout arrêté et puis en cours de route j'ai retrouvé cette école à Poitiers en art appliqué et j'ai fini la première année parce que je voulais déjà familiariser avec l'école et puis prendre contact avec les autres étudiants qui étaient là. Ça me permettait de pas arriver en deuxième année comme ça sans connaître personne. Et donc, j'ai fait mes 2 années et demie, en fait, à Poitiers. Et puis, tout naturellement, après, je cherche un emploi. Donc, j'ai atterri à Marseille, dans une boîte, une grosse boîte de pub. Et là, c'était pas pour moi, en fait. C'était trop gros, trop loin de ce que je voulais faire, en fait, sans trop d'ailleurs savoir ce que je voulais faire, mais ça me plaisait pas. Et finalement, j'ai atterri à Aix-en-Provence. J'ai atterri à Aix-en-Provence avec ces deux personnes là, qui cherchaient quelqu'un, alors pas salarié, mais en profession libérale. Donc j'ai démarré en fait profession libérale. Et là, ça a été quelques années assez formidables, je dois dire, parce que c'était deux belles, très belles personnes, Michel et Marc, avec qui j'ai appris à travailler et puis à grandir aussi, parce que j'étais toute jeune, hein, j'avais 23 ans. Donc ça m'a permis aussi de grandir avec des gens vraiment très très bien. Et la Touraine, oui, je l'ai quittée, voilà, pendant quelques années. Et puis, je suis revenue parce que ça n'allait plus trop. Voilà, je voulais revenir me rapprocher un peu de ma famille et puis revenir ici. Et puis finalement, je suis restée qu'une année. J'avais travaillé dans une imprimerie au Tour Nord, une imprimerie où je faisais de la carterie à l'ancienne. Et puis au bout d'un an, je suis repartie dans le sud. Parce que le soleil me manquait, en fait, et puis mes amis du Sud. Et puis, quand je suis retournée dans le Sud, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Donc après, ça me donnait une bonne excuse pour rester à Aix-en-Provence. Et là, par contre, j'ai complètement lâché le dessin et la publicité. Enfin, j'étais plus du tout dans ce milieu-là, puisque j'étais secrétaire dans une boîte de bureautique photocopieuse. Quelques années et après j'ai été maman. Voilà, c'était la plus belle page de ma vie, je pense, de commencer ce métier-là de maman, et avec Alicia qui est née à Aix-en-Provence. Et on est revenu ici. Alicia avait tout juste un an pour me rapprocher. Je voulais me rapprocher de ma mère qui était ici au Martineau à Verneuil-sur-Indre. Voilà, donc l'aventure en Touraine a repris ici en 98. Donc ce sont des belles, on a passé de très belles années là avec les enfants, mes trois autres enfants sont nés ici, en Touraine. Et on a eu vraiment toutes ces années où les enfants étaient petits, on était là avec ma mère, donc on a eu une belle vie de famille, c'était très très agréable. Le dessin est revenu avec Margot. Oui, voilà. J'avais besoin de me retrouver un petit peu, de faire autre chose que d'être maman à plein temps, en fait. Et c'est là que j'ai recommencé à redessiner, vraiment, à me remettre, à ressortir les crayons, les papiers, l'aquarelle. Et puis à essayer même de me projeter en même temps dans cette profession, enfin, dans la création. C'était le redémarrage, on va dire. C'est même pas un redémarrage, je dirais que c'était même une naissance. Parce que avant, je dessinais, oui, mais j'avais pas vraiment de. Je me projetais pas vraiment dans ce que je dessinais, dans ce que je faisais. J'avais fait quelques expos quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas la maturité, en fait. Je pense que je croyais pas et je voyais pas où je pouvais aller avec ce que je dessinais. Alors que depuis que je me suis remise à dessiner, il y a eu tout un parcours en fait, avec les portraits d'abord et puis après mes livres, les reflets et visages de Touraine, les livres pour enfants ensuite. Donc il y a, voilà, c'est vraiment un parcours et je sens que je vais quelque part, je sais pas trop où, mais, mais j'y vais doucement mais sûrement.
Est-ce que vous pouvez essayer un peu de vous replonger dans cette période-là, me dire effectivement de quelle façon vous vous êtes mise à incarner vraiment tout ce que vous faisiez en vous projetant effectivement dedans, vers quoi vous aviez envie d'aller et d'exprimer ?
Avec les visages, j'avais ma toute première exposition, j'avais choisi les enfants du monde. Je faisais beaucoup de portraits d'enfants, donc de pays divers. Et puis un cousin éloigné qui était venu voir l'exposition et qui m'avait dit « Mais tu sais, on a des beaux visages aussi en Touraine. » Donc je pense que l'idée a fait un peu son chemin. Et c'est là que j'ai commencé en fait à faire de... J'avais quelques commandes de portraits et je faisais des personnes âgées. Et je me suis découvert une passion pour les rides et les visages et le regard des gens âgés. C'est très bizarre d'ailleurs, mais j'aimais vraiment ça. Et là est venue cette idée de livre de reflets et visages de Touraine, d'associer en fait un visage avec un paysage à l'aquarelle et puis un petit témoignage qui raconterait la personne Donc ça a été un parcours un peu chaotique au début parce que je ne connaissais rien au milieu du livre, enfin, je découvrais tout ça. Et donc j'ai commencé à préparer une petite maquette. Alors je ne me projetais pas vraiment, hein. L'idée c'était vraiment de faire un livre, de regrouper, voilà, de mettre en lumière ces visages. Mais je n'avais pas vraiment d'idée particulière et c'est là que j'ai contacté Gonzague Saint-Brie, qui a été une très belle rencontre parce que, et très étrangement, c'est un des rares qui m'a écoutée et qui m'a fait confiance. Donc quand je suis allée le voir dans son chalet à Champceaux, j'étais toute tremblante, toute impressionnée par le personnage, parce qu'il ne laisse pas indifférent. Et donc en fait, moi je voulais de l'aide surtout qui me conseille pour faire mon livre, vers qui me diriger. Donc j'ai rien eu de tout ça. Par contre, il m'a dit, bon, bah, c'est d'accord, je vous fais la préface. Voilà, j'avais pas demandé de préface, mais je suis repartie avec une préface. Il m'a invitée aussi à participer donc à la Forêt des Livres. Et puis il m'a fait un très très beau cadeau aussi qu'il m'avait offert le prix de l'auteur indépendant. Donc c'était mon premier livre, mon premier salon, et j'avais le prix de la Forêt des Livres. Donc c'était un démarrage plutôt positif, on va dire, et très encourageant pour moi en fait. Et ça m'a aidé à croire un peu en moi et en mes capacités de faire quelque chose de bien. Et ça a été le début de cette histoire de reflet, effectivement. Alors après, me projeter par rapport à ça, ça a toujours été. Il y a toujours eu beaucoup d'émotions en fait dans ces livres, surtout les visages, hein, les reflets visages, avec les rencontres que j'avais l'occasion de faire pour ces livres. J'ai rencontré des personnes vraiment fabuleuses et des personnes âgées qui, quand j'arrivais, me disaient, mais j'ai rien à raconter. J'ai rien fait d'extraordinaire. En général, 4 heures après, j'étais toujours là et il fallait même quelquefois que je revienne une fois de plus pour réenregistrer d'autres mémoires, en fait, collectées. Et j'ai eu des échanges extraordinaires avec beaucoup d'émotions et puis une générosité incroyable. Et ça, je me suis nourrie, en fait, depuis que j'ai démarré ma maison d'édition. Donc, c'était en 2011. Depuis ce jour-là, en fait, je me suis nourrie de ces récits. C'est formidable. Enfin, j'ai eu une chance incroyable de croiser toutes ces personnes. Il y en a vraiment qui m'ont marquée de façon durable, on va dire. Je les oublierai jamais. Enfin, c'est vraiment des très très belles rencontres avec des belles personnes. J'ai fait 4 livres de reflets. Alors, ça demande beaucoup 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 d'énergie et de temps. Donc là, aujourd'hui, je l'ai plus cette énergie, ni le temps non plus. Donc je ne sais pas si je referai un autre livre dans cette collection. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je continue dans l'édition et la création de livres, dans les livres jeunesse. Ça, je continue sur ce parcours-là.
Comment s'appelle votre maison d'édition? Et en tout, les 4 livres, combien ça représente de portraits? Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? D'où sont-elles?
Pour répondre à la première question, donc j'ai appelé la maison d'édition les éditions de la Gâtine. Pourquoi les éditions de la Gâtine? En fait, la Gâtine, c'est une terre qui est gâtée et qui est difficile à travailler. Et l'image de ma maison d'édition et de la réalisation du premier ouvrage, je trouvais que ça collait plutôt bien avec la Gâtine, justement. Voilà, pierre après pierre, on les enlève et puis on travaille la terre. Et puis petit à petit, à force de travail, on arrive à faire pousser quelque chose. Donc les éditions de la Gâtine, c'est ça. Dans ces 4 livres, combien de portraits? Eh bien, écoutez, j'ai plus en mémoire le nombre exact de communes dans chaque canton. Donc canton de Loches, canton de Ligueuil, le canton de Bléré-Val-de-Cher, ça c'est le tout dernier. Et puis le petit lumineux, c'est l'île de Ré, aussi, qui a rien à voir avec la Touraine, mais qui a un lien pour moi très fort. Enfin, j'ai de très belles attaches. Des portraits, il faudrait que je recompte, mais beaucoup, plus de 50 portraits, je crois, en tout. Et à chaque fois, des belles rencontres, hein. Incroyables.
Comment vous avez, entre guillemets, soit sélectionné, ou comment les rencontres se sont faites, pourquoi un jour vous vous êtes dit, tiens, cette personne-là, je vais faire son portrait?
Alors le premier lien, en général, ce sont les mairies, les secrétaires de mairie, qui connaissent très bien les personnes de leur commune. Donc le tout début, je cherchais les doyens de chaque commune. Bon, finalement, c'était compliqué parfois d'avoir le doyen ou la doyenne de la commune. Donc c'était le choix d'une personne qui était dans la commune depuis très longtemps, qui avait envie aussi de se raconter et qui avait aussi quelques histoires à raconter, une bonne mémoire, voilà. Donc le choix se faisait déjà. Le premier choix, c'était par la mairie. Après, il y a le bouche à oreille, parce que quelquefois, il y a des communes qui ne me répondaient pas, des mairies où je n'ai pas eu de contact vraiment positif, on va dire. Donc après, c'est le bouche à oreille. Les gens qui me disent « Ah, mais dans tel village, tu sais, tu pourrais aller voir un tel. Je le connais bien, je suis sûre qu'il serait content de faire ça, de te raconter sa vie, ses histoires, ses souvenirs. » Donc voilà, ça s'est fait un peu le hasard, finalement. Il n'y avait pas de choix de ma part. J'ai eu beaucoup de chance parce que chaque fois, je suis tombée sur des personnes formidables. Quoi. J'ai eu un refus, une dame qui ne souhaitait pas du tout faire partie d'un livre. Donc on respecte, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça m'est arrivé une seule fois d'avoir un refus. Et sinon, à chaque fois, les gens sont plutôt contents de se raconter, en fait. Je dirais que les personnes âgées, souvent, en plus, quand quelqu'un de l'extérieur arrive, il n'y a pas de crainte, de tabou, en fait. Ils se racontent d'une façon très naturelle. Une fois que la confiance est installée entre nous, j'ai eu des très, très belles histoires avec des choses parfois intimes aussi, hein, des jolis souvenirs dont ils m'ont fait cadeau. Et oui, à chaque fois, ça a été... Pour eux, c'était vraiment un bonheur de se raconter. Et quelquefois aussi, il y a des enfants qui ne connaissaient pas du tout certains détails, en fait, ils découvraient après. Et donc les parents disaient « Non, je ne te raconte pas forcément toute ma vie. » Et c'était très amusant, justement. Et il y a des enfants aussi qui étaient touchés. Il y a une famille en particulier, la famille View, de Monsieur View. C'était dans le tout premier livre. Eux, ils ont été vraiment très, très touchés de cet échange avec leur papa. Ça a été un moment familial intense, en fait. Donc ça, c'est des cadeaux inespérés. C'est formidable.
Vous parliez d'instaurer la confiance. Comment faites-vous ? Est-ce que vous avez une méthode ? Comment les choses se passent ?
La méthode, non, j'en ai pas vraiment. Après, je pense qu'ils sentent la sincérité. Mon sourire. C'est la carte sourire que je joue. Qui est plutôt spontané à chaque fois. Enfin voilà, je le cache pas, je le force pas non plus. Et puis je me raconte aussi, en fait, un petit peu aussi quand je suis avec eux. C'est pas à sens unique, en fait. Quand ils me posent des questions, je leur réponds de façon, j'essaie aussi naturellement qu'eux et spontané. Donc la confiance, elle vient comme ça, en fait. C'est un échange et puis une honnêteté, sincérité dans nos propos, en fait. C'est simplement. Et je reste moi, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, en fait. Donc ça, je pense que ça plaît aux gens d'avoir quelqu'un en face d'eux qui soit sincère, tout simplement.
À travers tous ces portraits, vous pouvez néanmoins, par exemple, dresser un portrait un peu plus général d'une certaine population qui caractériserait un peu le sud Touraine.
Ils sont beaux, déjà, c'est des gens formidables. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé, cette génération-là. Ils ont toujours travaillé, déjà très très jeunes, les hommes et femmes. Ils ont connu aussi les guerres, ça c'est pas anodin quand même. Ils ont traversé des périodes quand même très très difficiles. Ils partaient pas en vacances, il n'y avait pas de congés payés, même s'il y en avait, ils n'avaient pas les moyens, donc ils partaient pas. Mais par contre, moi, ce que j'ai ressenti vraiment tout le long, c'est qu'il y avait d'abord une solidarité entre les gens qui était mille fois plus développée qu'aujourd'hui. Les gens vivaient beaucoup plus, s'ouvraient plus sur les autres, très étrangement. Et ils ne bougeaient pas beaucoup. Les gens dans les campagnes, surtout, enfin moi, il y a beaucoup de gens dans les campagnes. Hein. C'était ici, Sud-Touraine, on n'est pas du tout dans le milieu citadin, ça n'a rien à voir. Je pense que si j'avais fait un livre en ville, j'aurais des témoignages totalement différents. quoique. Mais en Touraine, en fait, les gens, quand ils étaient... Enfin, ils travaillaient déjà beaucoup. Et quand ils avaient des moments de loisirs, c'était soit dans le village lui-même, ou alors ils allaient dans d'autres fermes, ou dans le village à côté, au bal. Donc, il y avait des bals tout le temps. Les gens dansaient beaucoup, chantaient beaucoup aussi. Il y avait un partage à ce moment-là. Il y avait une entraide dans le travail. Quand il y avait des coups durs, les gens autour venaient aider. Alors certainement, tout n'était pas rose et idéal. Hein. On sait très bien ce qui s'est passé pendant la guerre. C'était pas non plus extraordinaire et merveilleux tous les jours. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait quand même une grosse majorité de gens qui se soutenaient, qui s'entraidaient et qui savaient s'écouter. Aussi, il y avait une écoute. Les gens, les familles étaient aussi vivaient ensemble. Ils partaient pas comme nous. On part maintenant. Les enfants sont à l'autre bout du monde. On voit plus notre famille ou on les voit une fois par an à Noël ou à Pâques. Mais voilà, c'est les gens vivaient ensemble tout le temps. Alors ils s'engueulaient bien sûr, hein. C'est normal, mais ça entretient les bonnes relations. Mais il y avait plus de partage, plus d'écoute. Les anciens restaient chez eux. Enfin, il y avait dans toutes les familles, le papy ou la mamie, il était là dans un coin. Il y avait les petits-enfants, les enfants qui étaient là autour et il n'était jamais tout seul. Aujourd'hui, nos anciens, ils sont tout seuls, quoi. Beaucoup sont seuls chez eux, ils voient très peu leurs enfants. Et ça, je trouve que c'est terrible. Il y a un vide énorme. Alors, inutile de vous dire que quand j'arrivais chez eux et puis que je restais 3-4 heures à les écouter parler, bien évidemment, ils étaient heureux qu'on les écoute. Parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on ne les écoute plus aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un manque. On a fait plein de progrès dans plein de domaines, mais celui-là, par contre, je pense qu'on est plutôt mauvais, on est nul même.
Public, donc vous m'avez dit, ce sont les enfants. Comment s'articule du coup votre travail quand ça s'adresse à la jeunesse ?
Alors avec les enfants, ça s'est fait différemment, quoique il y a un lien entre les grands-parents et les petits-enfants en fait. Mon tout premier livre pour les enfants, il est venu suite à un rêve en fait, et puis c'est venu comme ça. J'ai rêvé des dessins. Et l'histoire s'est greffée sur les dessins que j'avais dans la tête. C'était très bizarre comme façon de procéder. Et puis, j'ai commencé à faire des petits salons, lors des salons du livre, de le présenter en fait, aux enfants. Et j'ai fait ensuite pas mal de sorties en école aussi, pour présenter la musique qui s'articulait autour du livre du violon d'Abigail. Donc c'était à Arcangelo Corelli. Et ça passe bien en fait, c'est très rigolo parce que je présentais le livre, la musique, et en même temps je présentais aussi les livres des reflets. Et ça a donné lieu à des échanges très rigolos avec les enfants parce qu'ils me disaient, mais d'abord ils sont morts tous. Forcément quand ils voyaient les dates de naissance des gens que j'avais interviewés, c'était pour eux, ça leur paraissait tellement loin. Et après, donc, quand je leur expliquais comment je faisais, pourquoi et quel but j'avais quand j'interviewais ces personnes-là, il y en a pas mal qui m'ont dit « mais moi, je pourrais le faire aussi avec mon grand-père ou ma grand-mère ». Et à chaque fois, je leur dis « mais oui, au contraire, je pense qu'ils seraient ravis même d'avoir un intérêt comme ça, une écoute ». Donc je pense que ça a donné lieu, tous ces échanges avec les enfants, à peut-être, j'ose espérer, en tout cas, j'ose l'espérer, une petite vocation, en tout cas un intérêt envers leur famille, leurs grands-parents, pour leur poser des questions un peu sur leur vie, ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants. Ça fait un petit lien en plus, donc si ça a pu marcher, tant mieux. Et après, autour des livres pour enfants, dans mes livres, il y a toujours une petite part on va dire, de rêve, mais il y a toujours un petit message forcément qu'on veut faire passer. Dans le tout premier, c'était la difficulté de continuer sa vie après le décès d'une maman. Donc c'est un sujet, c'est vrai, qui est douloureux. Mais étrangement, c'est plus douloureux pour les adultes que pour les enfants eux-mêmes, parce que quand ils en parlent ou quand on en parle avec eux, ils l'abordent d'une façon totalement différente. Ils ont beaucoup moins de tabous, en fait. Le petit message était que ben, on peut arriver à surmonter tout un tas d'épreuves quand on se fait aider par, ça peut être la musique, le dessin, le théâtre, le cinéma, enfin, ou le sport. Enfin, il y a toujours quelque chose, un exutoire dans lequel on peut arriver à trouver une petite part de positif pour rebondir et puis se reconstruire. C'est ce qu'on appelle la résilience, continuer à vivre malgré tout toutes les épreuves qu'on peut rencontrer. Et l'autre petit livre que j'ai écrit, c'était sur donc la Reine des Sables, donc ce qui se passe à l'île de Ré. Là, c'est plus expliquer aux enfants qu'autour de nous, il y a tout un tas de petites merveilles, de petits trésors qu'on a juste sous notre nez et il faut juste prendre le temps de l'observer pour en profiter. Ça, c'est vraiment le petit message, on va pas dire écolo, hein, mais c'est savoir observer, apprécier la nature telle qu'elle est, et puis en profiter, et puis la préserver, ça c'est essentiel aussi. Donc avec les enfants, là aussi, j'ai pas de difficulté. À chaque fois, ça s'est super bien passé dans les écoles. J'ai travaillé aussi, j'avais fait une rencontre dans un centre pour enfants handicapés à Ballan-Miré, et ça a été, alors là, c'était fabuleux. Il y a eu des moments extraordinaires avec une petite fille. Donc j'étais allée pour le Viandin Abigail, et puis on avait fait un atelier dessin. Et c'est une petite fille qui n'arrivait pas du tout, qui avait les bras complètement bloqués. Et je lui tenais la main, en fait, pour la faire dessiner. Je lui expliquais en même temps ce qu'on faisait. Et au bout de 20 minutes, j'ai senti son bras se relâcher et la main faire un geste, esquisser un petit geste. Alors là, c'était formidable. Et je recroise encore cette petite fille, parfois, avec sa maman, sur des salons du livre. On s'est recroisés déjà quelques fois. Et elle me dit, mais Pauline, continue de dessiner toujours. C'est devenu... Enfin, ils lui ont installé tout un espace pour qu'elle puisse faire de la peinture. Donc voilà, ça aussi, c'est des petits échanges qui ont l'air de rien. Parfois, on s'est dit, bon, j'ai peut-être pas servi à grand-chose aujourd'hui. Et puis finalement, avec le temps, après, on se rend compte que si on a laissé une petite trace, et ça, c'est super, parce qu'on a ouvert une petite porte quelque part et on y a mis une petite graine. Donc ça, c'est chouette.
Que vous êtes actuellement secrétaire de mairie. Depuis quand et est-ce que ça correspond à un moment où vous avez moins créé ?
Oui, secrétaire de mairie. Alors ça, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, franchement, j'imaginais pas du tout. Ça s'est fait un peu bizarrement. En fait, c'était juste avant le confinement. Et puis j'avais ma maman qui était plutôt fatiguée, qui souffrait d'Alzheimer, donc je m'occupais beaucoup d'elle. J'avais besoin d'un petit job aussi parce qu'il n'y avait plus d'expo, plus de salon, donc c'était un peu compliqué. Je faisais déjà un petit mi-temps pour l'agence postale de ma commune, histoire d'avoir un petit fixe, hein, parce que les artistes vivent beaucoup d'amour et d'eau fraîche. Voilà, parfois ça peut être un peu compliqué. Et puis ça s'est fait naturellement, ma collègue partait à la retraite. Donc on en a discuté, le maire m'a proposé de faire un essai. Donc il m'a passé carrément à temps complet, donc de 15h je suis passée à 35. Donc forcément ça réorganise un peu tout le travail à côté, c'était complètement différent. Et puis en même temps, voilà, c'était très compliqué, j'avais une vie personnelle qui devenait très lourde en fait. La gestion de ma maman avec Alzheimer, c'était très compliqué, ça m'a pris énormément d'énergie. Le nouveau job secrétaire de mairie, ça m'a pris aussi beaucoup, beaucoup d'énergie au départ. Maintenant, ça va nettement mieux, mais au départ, c'était compliqué parce qu'on ne s'improvise pas secrétaire de mairie comme ça du jour au lendemain. On croit que c'est facile, mais il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. J'ai eu la chance d'être bien formée par ma collègue qui est partie à la retraite. Et puis, j'ai le maire qui est aussi très présent, donc c'est plutôt cool. Voilà, je sais que je peux compter sur lui. Si il y a quelque chose, je ne sais pas, je lui demande et tout. Voilà, ça s'arrange comme ça. Donc, ça fait maintenant, j'ai commencé, bah, écoutez, ça va faire 2 ans et demi que je fais ça à temps plein. Je retrouve petit à petit mon énergie, voilà, j'ai réussi à me ressourcer. Je puise dans mon environnement naturel autour de chez moi, là c'est un petit paradis, donc je me ressource énormément dans mon jardin. Et donc là maintenant, ça fait déjà quelques mois maintenant que je sens que je commence à revenir à la surface de tout ça, et puis je vais pouvoir, je recommence en fait, j'ai ressorti mes crayons, mes pinceaux, le papier, les aquarelles, un manuscrit qui traînait aussi dans un tiroir, donc que j'ai dépoussiéré et que je retravaille aussi avec, j'espère pouvoir le sortir avant la fin de l'année, bon, on verra si je suis prête ou pas. Et puis je reprends aussi les aventures avec mon éditeur Noir Édition, voilà, de jour en jour, le soleil revient et puis il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans les éditions de la Yatine, je pense, très bientôt.
Est-ce que on peut suivre votre travail ?
Déjà, je suis sur Facebook. Donc, ce que je partage sur Facebook, c'est essentiellement mon jardin. Mais en général, quand je fais un salon du livre, mon dessin, quand j'ai des dessins, des nouvelles aquarelles, j'en mets toujours des petits bouts aussi. Donc, on peut déjà le suivre. J'ai aussi un site internet qui est tout simplement nathaliedesperchesbouquetem.fr. Donc, on peut le trouver, je pense, assez facilement. Il n'est pas très, très à jour. Ça va peut-être revenir. Et puis, après, voilà, je fais quelques salons qui vont... Voilà, il y aura certainement le salon de Noël à Loches. Donc là, on y verra, normalement, si tout va bien. Et puis, d'autres salons à venir, je pense qu'en 2023, je devrais ressortir un petit peu. Alors, je ne vais pas en faire autant qu'avant, je pense. Je vais choisir, déjà près de chez moi, pas faire trop de kilomètres non plus. Je n'ai pas envie d'aller trop loin de chez moi. Mais voilà, il y aura des endroits où on pourra suivre. Et puis dans le coin, voilà, les gens savent où me trouver en général. Verneuil-sur-Indre, bon. Les Martineaux, c'est toujours ouvert. Si les gens veulent venir me voir, ils sont toujours les bienvenus, il n'y a pas de souci.
C'était Voix du Sud-Touraine avec Nathalie Desperges-Boucatem, un podcast proposé par la communauté de communes Loches Sud-Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.